cours de métaphysique par le père Philippe à Saint-Jeodard, le 19 janvier 1988.
Le premier qui, de fait, dans notre philosophie occidentale, regarde la qualité. Et on pourrait presque dire que Platon, ayant tellement été saisi par la forme, ne dépasse pas le domaine de la qualité. On le verra mieux au terme, quand on précisera qu'est-ce que c'est que la qualité. Ce qui est important de retenir, c'est de voir, justement, que, de fait, il saisit la qualité comme ce qui donne à la réalité sa forme. Une réalité est qualifiée. Je vais tout de suite avec vous regarder Aristote. La philosophie d'Aristote est la première à analyser explicitement ce qu'est la qualité, le tι esti la qualité. Vous voyez, Platon décrit la qualité. J'allais dire, il montre l'existence de la qualité. Platon est très saisi par la qualité comme se manifestant à nous. Tandis que le souci d'Aristote, c'est de chercher qu'est-ce que c'est que la qualité. Si nous voulons traiter cette question de façon un peu exhaustive, c'est toute la philosophie d'Aristote qu'il faudrait examiner. Et on peut examiner toute la philosophie d'Aristote sous ce point de vue. Et c'est pour ça que quand on dit Platon, c'est la philosophie de la qualité, ce que je crois, comme la philosophie de Heidegger. Cependant, chez Aristote, on peut dire aussi que toute sa philosophie ne cesse de regarder les qualités. Alors, on ne peut pas faire toute la philosophie d'Aristote de cette manière. Alors, je voudrais simplement avec vous regarder quelques aspects de la philosophie d'Aristote. D'abord, dans les catégories. Les catégories, vous allez commencer à vous habituer de savoir ce que c'est. L'aspect propédeutique des catégories. Donc, ce qui est donné en premier lieu. Et puis, dans la philosophie première, c'est toujours bon de regarder ces deux extrêmes de la philosophie d'Aristote. Parce que c'est grâce à ces deux extrêmes qu'on saisit le mieux que représentent les catégories et que représente le point de vue de la philosophie première. Dans les catégories, Aristote exprime ce qu'est la qualité comme attribution. Catégorie, c'est-à-dire ce qui est attribué. Il en énumère les propriétés. J'appelle qualité, poiétès, ce en vertu de quoi on est dit tel. Poion. Ça, il reprend ça, Platon. On est dit tel. Ouvrier qualifié. Je crois que c'est ça qui nous fait le mieux comprendre aujourd'hui. Quand on parle d'un ouvrier qualifié. Quand vous voyez quelqu'un sur lequel vous pouvez compter, il a des qualités. Et vous le dites du reste. Cet homme, il a des qualités. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites il a des qualités? Il est qualifié. Et on passe de la qualité qu'on regarde en elle-même, d'une manière abstraite, à la qualité concrète, blancheur, blanc. Blancheur, c'est une qualité. Blanc, c'est ce qui est tel. La qualité, donc l'abstrait, est manifestée par le concret tel, poyon. Ce qui est attribué est manifesté par ce qui exerce cette attribution. N'est-ce pas la manière la plus directe de connaître la qualité, puisqu'on expérimente seulement le concret qualifié, d'où l'on peut induire la forme abstraite, la qualité. Une induction très très directe. N'est-ce pas là comme une première induction, celle qui fonde l'attribution logique, celle que suppose tout notre langage. C'est du reste très intéressant de voir ça, parce qu'au fond, le langage demeure au niveau de la qualité. C'est évident que le langage n'est pas au niveau de la substance. Et c'est du reste le poète qui va se servir du langage pour donner au langage tout son aspect qualitatif. C'est le propre du poète de faire ça. De mettre en pleine lumière la valeur propre du langage et donc son aspect qualitatif. Vous voyez, la différence du langage ordinaire, quand vous allez au marché pour acheter des légumes, et le poète qui se sert du langage pour mettre en lumière certains aspects, la lumière qu'il veut exprimer. Sans analyser ce dire, le legein, les catégories sont au niveau du dire, ce qui est dit, le legein, exprimant la qualité, puisque c'est ça les catégories, vous regardez les diverses manières dont vous qualifiez dans votre langage. C'est une analyse du langage, mais un langage qui exprime ce que vous pensez et qui exprime votre manière d'atteindre la réalité. Le philosophe ajoute aussitôt, donc après avoir montré qualité, ce qui est tel, il faut tout le temps venir à ça, hein. C'est le poion, ce qui est tel. La qualité est au nombre de ces termes qui se prennent en plusieurs sens. C'est aussi très significatif. Si vous regardez donc ce poion, ce qui est tel, vous dites tout de suite que la qualité se dit de diverses manières. C'est donc grâce à la qualité que je vais saisir l'aspect analogique. Pour ceux qui veulent comprendre ce que c'est que l'analogie, c'est là où ils doivent le saisir. C'est la diversité dans l'ordre qualitatif. La qualité est au nombre de ces termes, de ces dires, qui se prennent en plusieurs sens. La qualité implique immédiatement une diversité de significations. Elle ne peut s'abstraire de cette diversité, car elle est en elle-même quelque chose d'ultime. Très curieux de voir que la qualité est tout de suite analogique. Elle se dit tout de suite dans la diversité. Si vous comprenez qu'est-ce que c'est que l'analogie, parce que vous devez vous poser un peu la question, ça revient de temps en temps, le terme analogie. Qu'est-ce que c'est que l'analogie ? Eh bien, c'est à l'intérieur du legein, à l'intérieur du dire, une diversité de cette manière de dire. La qualité en elle-même ne peut plus être formalisée, mais elle se présente à nous, c'est un fait, sous une grande diversité. Elle a quelque chose d'ultime. En effet, quand vous qualifiez quelqu'un, vous ne mettez pas une surqualité. La qualité est toujours quelque chose d'ultime. Mais immédiatement, il y a une diversité. Alors Aristote va exposer les principales significations de la qualité. Ça, c'est très intéressant. Et il y a toute une élaboration. Ça fait comprendre ce que c'est que les qualités, ce que c'est que les catégories. Si vous comprenez la qualité, vous comprenez toutes les catégories. Plus que la substance, vous voyez. Les catégories sont au niveau de la qualité. Et c'est la qualité qui me fait tout de suite comprendre ce que c'est que les catégories. Donc, la première espèce de qualité, dit Aristote, comprend l'exis et la diathésis. L'exis. Qu'est-ce que c'est que l'exis ? Platon parlait déjà. Pour Aristote, c'est très très important. Et ça jouera un rôle extrêmement important dans tout saint Thomas. Exis, c'est un état. On traduira en latin habitus. Alors, c'est le fameux habitus. Habitus. Très difficile à traduire. Qu'est-ce que c'est qu'un habitus ? Un habitus, ne traduisez pas avoir. Un habitus, c'est une bossuée. C'est rare qu'on parle de bossuée en philosophie, mais bossuée va traduire habitus à disposition permanente. L'habitus, c'est donc une détermination, j'allais presque dire une super détermination. C'est presque ça qui nous ferait peut-être le mieux comprendre. C'est pour ça que c'est la première qualité, parce que c'est la qualité de la qualité. Et c'est donc ce qu'il y a d'ultime dans l'ordre qualitatif. Un ouvrier qualifié. C'est quelque chose qui est ultime dans l'ordre de la détermination. Je crois qu'on pourrait dire une surdétermination. Une métadétermination, si vous aimez mieux. C'est ça l'habitus. Vous allez comprendre par un exemple. Vous direz par exemple que la vertu est un habitus. Qu'est-ce que c'est que la vertu ? La vertu, c'est quelque chose, normalement nos vertus, c'est quelque chose d'acquis qui vient s'ajouter. L'art est un habitus. C'est quelque chose qui vient s'ajouter à nos différentes capacités. L'intelligence est une qualité. Mais l'intelligence est parfaitement elle-même quand elle est déterminée par la science, l'habitus de science. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui vient s'ajouter, dont le rôle, j'allais dire, est purement de rendre une réalité plus qualifiée, plus elle-même, dans le sens où elle est déjà parfaite en elle-même. C'est pour ça que je crois qu'on peut dire une surdétermination. Exis et diathésis. Diathésis, c'est uniquement la disposition. Donc vous avez l'habitus, la disposition permanente. Et la diathésis, c'est simplement la disposition. Alors, normalement, elle n'est pas quelque chose qui demeure. Elle est quelque chose qui passe, la diathésis. Donc, l'exis, l'habitus, laissons habitus et exis, s'habituer à ce langage. C'est très difficile à traduire. Regardez comment Avicenne traduit exis. Une vision intéressante, c'est de génie d'une langue à l'autre, parce que ça veut mieux comprendre. C'est pour ça que je reviens toujours au grec. parce que le grec dit quelque chose de plus que c'est déjà usagé quand c'est en français. Grec, latin, français. Vous voyez, troisième position. Grec, arabe. L'arabe est plus proche du grec que le français. Selon la transmission d'Aristote, de fait. Donc, lexis a plus de durée et de stabilité que la disposition. Une qualité, ça demande de demeurer. Ça fait partie de la qualité. Mais quelqu'un qui est de bonne humeur un jour, mais le lendemain de mauvaise humeur, vous n'allez pas lui dire qu'il est plein de qualités. Quand ça passe trop vite. Par exemple, donc, les sciences, les vertus sont des exeis, sont des habitus. Elles sont stables, difficiles à mouvoir. Le difficile mobile, difficile à mouvoir, ça fait partie de l'exis, ça fait partie de l'habitus. Par contre, la disposition est une qualité qui peut facilement disparaître, rapidement disparaître, se modifier. Il en est ainsi de la chaleur, du refroidissement, de la santé. La santé n'est pas un habitus. C'est une disposition. Et toute la différence entre la santé et l'art. Quand vous avez acquis un habitus d'art, ça demeure. Quand vous avez acquis un habitus de science, ça demeure. Vous allez me dire, oh, ça se perd si on n'exerce pas. C'est vrai, mais ça demeure quand même. Vous voyez, celui qui a l'habitus mathématique, ça demeure toute sa vie. Il y a quelque chose qui demeure. L'habitus scientifique demeure. La vertu aussi. Ça met du temps avant de disparaître. Si on peut dire que les habitus sont des dispositions, on ne peut pas dire l'inverse. Posséder des habitus, c'est se trouver dans une certaine disposition à leur égard, tandis qu'avoir des dispositions, ce n'est pas posséder par là même un habitus correspondant. N'est-ce pas le signe que l'une est parfaite, l'autre est imparfaite dans le même ordre? Car si l'une est incluse dans l'autre, la disposition dans l'habitus, l'inverse n'est pas vrai. Vous voyez? Avant d'acquérir l'habitus, avant d'acquérir la vertu, vous vous disposez. Vous faites des exercices. La vertu d'obéissance, par exemple. Prenons ça, puisque ça, c'est notre vertu la plus familière, hein, la plus connaturelle, la vertu d'obéissance. Bon, avant d'acquérir la vertu d'obéissance, et prenez la vertu d'humilité, si vous aimez mieux. Avant d'acquérir la vertu d'humilité, parce qu'on est tous humbles dès le berceau. Hein. Alors, la vertu d'humilité. On fait des exercices. Faites des actes d'humiliation. Vous vous habituez à vous effacer, ce qui n'est pas commode, et laissez l'autre passer devant. Faites un acte d'humilité. Quand vous faites un acte d'humilité, vous êtes dans l'ordre de la disposition. Puis au bout d'un certain temps, une année de noviciat, vous sentez complètement rodé et vous avez l'habitus d'humilité pour toute votre vie. Vous continuez à faire des exercices, c'est bien évident, vous continuez à faire des exercices. Parce que si vous ne continuez pas à faire des exercices, attention, les mauvaises herbes vont pousser très très vite. La mauvaise herbe, c'est les tendances à l'orgueil. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'exercices pour être dans la tendance d'orgueil. Vous vous laissez aller. Et la tendance d'orgueil, c'est de l'ordre de la disposition. Au sens strict, les vices sont du côté de la disposition. Je sais très bien que saint Thomas dira de temps en temps que les vices sont des habitus. Mais au sens strict, ce n'est pas des habitus. Alors vous pouvez avoir des vices inviscérés. Hein? quand vous avez des vis inviscérés, alors c'est le vis qu'il a de plus tenace. C'est le pécheur qui a péché toute sa vie. L'alcoolique qui a bu toute sa vie, dès qu'il voit une bouteille, immédiatement il se jette dessus. Impossible de le retenir. Alors, il a une tendance vers la bouteille. Cette tendance vers la bouteille, c'est une disposition. Et elle est très stable. Alors donc c'est un habitus, parce qu'elle est très stable. Alors c'est là, c'est très subtil. Il y a une stabilité qui peut venir de la matière. Ça fait partie des ornières. Les ornières, c'est une stabilité. Et puis vous avez une stabilité qui vient des principes. Et une coutume. Vous êtes habitué, vous êtes habitué à prendre votre petit verre le matin, votre petit verre d'alcool. Autrement, impossible. Toute la journée, vous allez tourner en cherchant une bouteille d'alcool. C'est ça, un alcoolique. Il a une disposition terrible vers l'alcool. Il est polarisé vers ça. Alors, c'est une disposition stable, comme une ornière. Ça vient du côté corporel. Tandis que l'habitus vient du côté de la finalité. C'est ça qu'il y a une double stabilité. C'est pour ça qu'on dira que la disposition, par elle-même, n'est pas stable. On verra ça progressivement dans cet avance. C'est très intéressant, du reste. Du point de vue psychologique, ce serait très intéressant à creuser. Donc, premier type de qualité. La qualité par excellence. Exis diathesis. Retenez ça. Exis, donc habitus. Habitus. Vous verrez, cela repris par saint Thomas exactement de la même façon. C'est très très curieux. Saint Thomas n'a rien ajouté à la métaphysique, à la philosophie de la qualité d'Aristote. Rien du tout. C'est pour ça que c'est intéressant de le regarder dans Aristote. C'est celui qui a été le maître de saint Thomas pour la qualité. Évidemment, je crois que saint Thomas a vécu davantage qu'Aristote des qualités et des vertus, je crois. Aristote n'est pas un saint, tandis que saint Thomas est un saint. Or, la sainteté, vous savez bien, ça exige des vertus héroïques. Donc, le saint, c'est le modèle de la qualité. Parce que c'est ça, de façon classique, on dit que le saint, c'est celui qui a des vertus héroïques. Exis. Il est rempli d'exis. C'est ça le problème de la sainteté. Alors, acquérir, en fait, si vous êtes dans la voie de la sainteté, quand vous commencez à acquérir l'humilité, oui. Puis vous acquérez après la tempérance, puis après la justice, oui, vous accumulez. Deuxième genre de qualité est formé par les qualités passibiles ou affectives, les patheticae poietetes et les passions ou affections, les pathés. Seconde sorte de qualité, c'est les pathés, facile à retenir. C'est les passions, ce que vous subissez. Les qualités sensibles, seconde espèce de qualité. Autrement dit, ce genre de qualité concerne l'aptitude ou l'inaptitude naturelle à accomplir facilement quelque chose ou à ne pâtir en rien. Par exemple, le dur est tel qu'il possède une aptitude naturelle à ne pas être facilement divisé. Le mou. Il y a du beurre mou ou du beurre dur. Ça dépend s'il sort du frigidaire ou pas. N'est-ce pas ? Eh bien, quand il est dur, c'est une qualité d'être dur. Je ne sais pas si c'est une qualité pour le beurre. Ça, c'est autre chose. Mais c'est une qualité. Il est dur. C'est une aptitude naturelle. Ou naturelle, quelquefois artificielle. le beurre ne serait pas naturellement dur. Alors, ce qui peut être facilement divisé, ou difficilement divisé, le dur, et ça se transpose en disant, oh oui, celui-là, il est dur, oh, ce qu'il est dur. Le dur, c'est celui qui ne se laisse pas influencer. Le mou. C'est celui qui reçoit l'empreinte facilement. Ça s'enfonce comme dans du beurre. Oui, du beurre mou. Parce que quand c'est du beurre dur, ça ne s'enfonce pas. La chaleur. C'est une qualité, la chaleur. Le froid. Mais les pâtés. Quand vous avez froid, ça peut arriver. C'est une qualité. C'est une qualité, froid. Quand vous avez chaud, c'est une autre qualité. Alors évidemment, vous choisissez. Dites-moi, je suis en plus grande connaturalité avec le chaud. Quand je suis froid, je deviens dur. Oui, qualité passibilesse, les pâtés. C'est très curieux, ça, comme qualité. Troisième genre de qualité est formé par les qualités passibles ou affectives. Oui, pardon. Alors, vous avez, il y a le genre de qualité, c'est, il y a d'abord, en premier lieu, les deux se tiennent assez, il faut bien comprendre. La qualité de l'aptitude ou de l'inaptitude. Vous avez par exemple un bon lutteur. Quelqu'un qui est capable. Donc il y a. Là, je vais passer. En réalité, le pâté, c'est la troisième. En deux, c'est la capacité, l'aptitude. Les aptitudes naturelles. Bon à la course. Un cheval qui est bon à la course. L'aptitude. Vous voyez quelqu'un qui est un bon lutteur. Celui-là, il est capable de courir longuement. Donc, il y a l'aptitude et l'inaptitude. Alors, ça, c'est le dur ou le mou. Et puis, alors, vous avez troisième genre de qualité, les qualités passibles, les affections et les pâtés. Ces qualités sont les plus pures, que ce soit là, des qualités, c'est clair, dit Aristote, car les êtres qui les possèdent sont dits de telles qualités en raison de leur présence, en raison de la présence de ces qualités en eux. Donc, c'est les passions, la douceur, l'amertume, l'âcreté. Vous voyez que ça se ressemble assez bien, ça. Hein, l'aptitude, l'inaptitude. Et puis les pâtés, la chaleur, est-ce que c'est ici, le chaud, le dur c'est une aptitude, bon à la course, ce cheval est bon à la course, cette petite vache, la qualité de la petite vache, alors vous avez une qualité particulière pour chaque animal. L'aptitude ou la non-aptitude, c'est la qualité, ça exprime la nature particulière de cet être. Quelle est la qualité propre de l'homme? Pour le cheval, vous voyez, un cheval de course. C'est l'aptitude. Tout de suite. Et alors, quelle est la qualité propre de l'homme? Est-ce que c'est d'être un beau cheval de course? La qualité d'un homme, l'endurance. C'est difficile à trouver la qualité propre de l'homme. Au niveau aptitude et inaptitude. Capable de capacité du côté inaptitude. Donc la résistance, l'endurance, et puis pâté. Au contraire, il pâtit facilement. Ces deux sortes de qualités sont très proches. Ces qualités, donc, les qualités pâtées, ce qui est. Sont dites passibles, passibiles, pathetikai, parce qu'elles sont aptes de produire dans les sensations des modifications. Autrement dit, elles spécifient immédiatement les sensations. la douceur et ce qui qualifie le goût, la chaleur, le toucher, tandis que la pâleur, la rougeur sont dites qualités passibles ou affectives du fait qu'elles sont le résultat, l'effet d'une modification provenant d'une aptitude naturelle du tempérament. Quelqu'un qui rougit facilement, il suffit de le regarder, il est rouge comme une pivoine. C'est une qualité passible, un pâté. Quelqu'un qui est blanc, terriblement blanc, parce qu'il est malade, pâté. Est-ce que tu es blanc ce matin? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? La dureté et la stabilité distinguent des qualités affectives des affections, comme elles distinguent les habitudes des dispositions. Alors, enfin, quatrième genre de qualité, la figure, schéma et la forme, celle qui appartient à chacun. Et de plus, la droiture, la courbure et tout ce qui lui est semblable. Un être, en effet, est qualifié d'après toutes ces déterminations. Donc, quatrième forme de qualité, on dira en latin la figura, et en français la physionomie. La physionomie d'un être. Oui, c'est la qualité, c'est la dernière des qualités, ça. Vous avez donc tout de suite, et c'est ça qui est intéressant au point de vue philosophique, c'est de voir que tout de suite, la qualité se diversifie. Vous n'avez pas un genre commun qualité. Et c'est dans ce sens-là que c'est tout de suite un langage analogique. Quand Aristote nous donne ces quatre déterminations, quatre manières d'être qualifié, quatre manières d'impliquer des déterminations, Aristote ne prétend pas, je crois, être exhaustif. On pourrait sans doute découvrir d'autres modes de qualité. Mais il donne ce qui est le plus fréquent. Revenant sur les rapports entre la qualité et ce qui est qualifié, Aristote note que dans la plupart des cas, presque tous, le nom de la réalité qualifiée est dérivé de la qualité. La blancheur a donné le nom blanc. Mais cela n'est pas toujours vrai. Ça, c'est une petite remarque intéressante. Dans certains cas, il y a un nom spécial pour telle qualité, mais la réalité qualifiée d'après celle-ci porte un nom qui ne dérive pas du sien. Par exemple, l'honnête homme est tel en raison de la vertu. Il est dit honnête parce qu'il possède la vertu, mais n'est pas dénommé par la vertu. Vous voyez? Alors ça, c'est par rapport au langage. Par rapport au langage et par rapport à la réalité. Ben, c'est sûr que la qualité joue un rôle énorme dans le langage. Ce que je vous disais, les catégories sont au niveau de la qualité. Alors cette petite remarque de l'abstrait du concret, presque toujours il y a le même nom, mais dit pas toujours. Pourquoi? Parce que justement, la réalité n'est pas toujours connue avec suffisamment de netteté pour que je puisse passer de l'abstrait au concret. Un honnête homme, c'est un homme qui possède la vertu. Je dirais un homme vertueux. Oui, vertu, vertueux. Est-ce que l'honnête homme, c'est uniquement l'homme vertueux? Ou est-ce que honnête homme veut dire autre chose? et exprime autre chose. C'est ça qu'il veut me noter. Autrement dit, il veut montrer que souvent, la réalité concrète est plus riche que notre langage abstrait. C'est ça, je crois, qu'Aristote veut noter. Une fois qu'Aristote a nommé ces quatre grandes significations de la qualité, donc mettez en plus ici habitus et puis disposition. Comme ça, vous avez le petit tableau des quatre. Pas si commode à connaître, à comprendre. Hein. On énumère, on voit bien les exemples. Les exemples sont là pour nous aider à comprendre. Mais vous voyez, c'est pas si commode que ça, bien comprendre la différence entre 2 et 3. Entre 1 et 2, c'est facile. La quatrième aussi. Mais 2 et 3, c'est pas commode. C'est curieux du reste. Parce qu'il y a un aspect, vous voyez, de passivité, de passion, pathie. Puis un aspect plus immédiatement naturel. La modification ici. La modification est beaucoup plus nette. On pâtit sous l'influence d'un autre. On est beaucoup plus relatif à un autre dans le pâté. Alors Aristote, à partir de là, va préciser les propriétés de la qualité. C'est aussi très intéressant. La contrariété appartient à la qualité et aux réalités qualifiées. Par exemple, la justice est le contraire de l'injustice. L'injuste est le contraire du juste. De plus, si l'un des contraires est une qualité, l'autre le sera également. Donc la première propriété des qualités, c'est de donner naissance à des contrariétés. La contrariété est une sorte d'opposition, une opposition qualitative. Les contraires. Les contraires jouent un rôle énorme dans toute la physique d'Aristote. Les contraires expriment le mouvement. C'est toujours entre deux contraires que le mouvement, l'altération, entre deux contraires. La chaleur et le froid sont deux contraires. Et vous faites passer du froid au chaud. La contrariété est une chose, c'est le domaine de la qualité, la contrariété. Ça qualifie des relations à l'intérieur même des qualités. Deuxièmement, les réalités qualifiées sont capables de plus et de moins. Donc il y a la contrariété et le plus et le moins. Par exemple, une chose blanche est dite plus ou moins blanche comparativement à une autre. De plus, la réalité qualifiée est capable de plus d'intensité. Ce qui est blanc peut devenir plus blanc. Ce n'est pas vrai de toutes les qualités. Et de la plupart. Ainsi, en ce qui concerne les figures géométriques, il ne semble pas qu'on puisse parler de plus et de moins. La figura n'implique pas de plus et de moins. Donc, le plus et le moins qualifie certaines qualités. Si telle réalité qualifiée est capable du plus et du moins, la qualité prise en elle-même ne l'est pas. Donc, le plus et le moins provient de la réalité qualifiée et non pas de la qualité comme telle. C'est vrai, quand vous parlez du blanc, la blancheur, hein, vous ne pouvez pas dire « Ah, il y a du plus et du moins dans la blancheur ». Non. La blancheur implique quelque chose d'indivisible. La qualité comme telle implique quelque chose d'indivisible, parce que c'est de l'ordre de la détermination. Mais la réalité qualifiée, impliqué du plus et du moins. C'est plus ou moins blanc. Mais c'est la réalité. Vous voyez bien que par là, le plus et le moins ne qualifient pas directement la qualité, mais qualifient le sujet qualifié. La qualité, alors Aristote, donc, il y a aussi la similitude dans la qualité. Et ça, ça fait la partie de la contrariété. Contrariété et similitude. La qualité implique une similitude. Donc la seule analyse de ce chapitre 7, du chapitre 8 des catégories, ne nous permet pas de saisir parfaitement ce qu'est la qualité pour Aristote. C'est plus une description intéressante. Et ça jouera un très grand rôle dans la philosophie. C'est pour ça que c'est important de comprendre un peu comment Aristote regarde le legein, le dire de la qualité. En philosophie première, donc en métaphysique, dans le chapitre 14 du livre Delta, Aristote traite expressément de la qualité. Alors, le livre Delta. Le livre Delta de la philosophie première d'Aristote, c'est le dictionnaire théologique, le dictionnaire philosophique d'Aristote. C'est un petit dictionnaire, très intelligent. Et quand vous, il faudrait connaître par cœur le livre Delta pour bien connaître les termes philosophiques d'Aristote. C'est très astucieux. Vous voyez, c'est le Lalande intelligent. Parce que le Lalande donne tous les... Vous savez bien, le livre Lalande donne tous les termes philosophiques. C'est le dictionnaire philosophique. Quand vous ne savez pas un terme particulier, immanent, transcendance, chercher dans la lande. Ça ne veut pas dire deviendrait intelligent. Et chercher dans la lande pour connaître ce que représentent ces termes. Eh bien, le premier dictionnaire philosophique, c'est le livre Delta d'Aristote. Et c'est beaucoup plus intelligent que la lande. On ne peut pas dire que là, il y a un progrès d'Aristote à la lande. C'est intéressant, du reste, à regarder de temps en temps, à faire un petit peu la comparaison. Eh bien, dans ce chapitre 14 du livre Delta, Aristote revient sur la qualité. Il nous dit, la qualité se dit en premier lieu de la différence de la substance. Alors, on n'est plus du tout là au niveau du legein. Et c'est ça qui est intéressant à voir. Donc, les catégories ici, c'est le legein, le dire. On est au niveau de l'attribution, donc du dire, donc du langage. Tandis qu'au contraire, avec le livre Delta, chapitre 14, Aristote nous dit que la qualité, c'est en premier lieu, et ça c'est très intéressant, la diaphora. Tes ousias. C'est la diaphora. La diaphora. C'est en premier lieu la différence. La diaphora, ça veut dire différence. La différence de l'ousia. Donc de la substance. Vous voyez que tout de suite, la qualité se met du côté de l'être, du côté de ce qui est, parce que c'est la substance. C'est en référence avec la substance. La qualité ne peut se comprendre qu'en référence avec la substance. C'est la diaphora de la substance. Par exemple, l'homme est un animal d'une certaine qualité, parce qu'il est bipède. Ah, être bipède, c'est une qualité. N'avez pas de quatre pieds. Ennuyeux. Vous courriez plus vite. Parce qu'il y en aurait. Il y aurait deux pneus de rechange, vous voyez. Alors vous voyez, quand vous seriez fatigué, vous prendriez de l'autre côté. Et bipède. L'ousia par elle-même ne fait pas différer, mais constitue l'être, la structure, et le détermine en premier lieu. L'ousia est indivisible, donc ne fait pas différer. L'ousia donne une stabilité. L'ousia donne une autonomie. La substance est source d'autonomie. La qualité ne structure.